enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, nous allons traiter la deuxième partie du sujet « La guérison divine ensemble ». Pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas entendu la première partie et désirent la voir, elle est disponible pour vous sur cassette. Lisons ensemble dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. » Matthieu 8, versets 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Je désire, au travers de cette série sur la guérison divine, eh bien, laisser voir ce que la parole de Dieu a comme objectif pour chacun d'entre nous et ce que Dieu a comme plan, même au travers de la souffrance. Jésus est le même, il guérit aujourd'hui encore. J'étais l'autre jour, vendredi soir, en Suisse. Et alors que nous avions eu un temps de louange, la prédication de l'évangile, j'ai une dame qui s'approche, je prie avec elle, et puis à la fin, elle m'attendait. Pour moi, cette dame devait avoir au moins, comme le papa Jean, 75, 76 dans ces eaux-là. Et puis elle vient, et vous savez, on voyait la joie sur son visage, elle avait les yeux qui pétillaient. Et puis elle me dit, mais pasteur, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Rendez-vous compte, c'est extraordinaire. Je lui dis, qu'est-ce qui vous arrive? Elle lui dit, mais je suis guéri. Pendant que j'étais là ce soir, j'étais guéri. Je ne pouvais plus tenir debout. Et cela faisait longtemps que je ne pouvais plus me tenir debout. Les médecins m'ont dit, madame, nous ne pouvons plus rien faire pour vous. Il n'y a plus d'intervention chirurgicale possible pour vous. Nous pouvons encore vous traiter, vous donner des piqûres de manière à ce que la souffrance ne vienne pas vous tourmenter ou vous troubler. Mais nous ne pouvons plus vous guérir, il faut que vous acceptiez de terminer votre vie comme ça. Et là, les yeux pétillants, pleins de joie, elle ne me lâchait plus. Elle était comme Dominique, elle ne me lâchait plus. Eh bien, elle me dit, je suis guéri, ça fait une heure que je suis debout, sans avoir de souffrance, sans avoir le besoin de m'asseoir. Et puis, à la fin, elle me dit, « Pasteur, vous croyez que ça va tenir ?» Alors je lui dis, « Bien sûr, ce que Jésus fait, il le fait bien. » Elle me dit, « Donnez-moi quand même votre carte, on ne sait jamais. » Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, c'est le moment d'ouvrir votre cœur. Et si vous êtes malade, de vous attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je crois qu'il est essentiel, pendant que nous sommes assis dans l'auditoire, pendant que nous écoutons la parole de Dieu, il est essentiel de réaliser que cette parole est vivante. Il est essentiel de comprendre qu'elle ne revient jamais à Dieu sans effet. Je crois qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui vivraient quelque chose si elles avaient la foi de recevoir par la prédication de la parole ce que Dieu a préparé d'avance. Mais souvent nous écoutons et nos cœurs ne sont pas ouverts pour recevoir. Attendez-vous à recevoir. Dans la première partie, et je résume là, que nous avons vu ensemble, nous avons vu que avoir la foi en la guérison divine n'exclut pas la médecine. Vous savez, on est dans un monde qui aime les absolus. Et les chrétiens aiment également les absolus. Beaucoup de chrétiens préféraient qu'on leur dise, « Eh bien, en Christ maintenant, tu n'as plus besoin d'aucun médecin. » Si la Bible le disait dans ces termes-là, je vous le dirais. Mais elle ne le dit pas dans ces termes-là. Elle nous dit d'avoir confiance en lui. Parce que si franchement vous n'avez plus besoin de médecin, n'allez plus au dentiste. Ne portez plus de lunettes. Et je crains que si vous le faisiez, ce serait une catastrophe pour vous. Dans l'absolu, oui, Christ a tout accompli. Cependant, nous le verrons ensemble ce matin, la maladie peut devenir également dans ses mains un instrument pour notre bénédiction. Deuxième chose que nous avons vue ensemble, la guérison et la souffrance, leur rôle. Et puis nous avions terminé avec cette proposition, Dieu veut que nous vivions une vie en bonne santé. Et dans cette dernière proposition, eh bien, nous avions fait appel à la responsabilité de chacun au travers de son comportement. Mon comportement peut engendrer ou une vie en bonne santé ou à l'inverse, eh bien, la maladie. Ce matin, j'aimerais avec vous revenir à la genèse des choses. Voyez-vous, nous sommes pleinement conscients qu'il y a des maladies d'origine microbienne, il y a des maladies d'origine génétique, etc. Tout cela, nous en sommes pleinement conscients. Nous sommes également conscients que si parce que vous êtes chrétien, vous pensez que vous pouvez sortir par moins 15 degrés torse nu, il est fort possible que vous ayez une pneumonie et que ce sera là le résultat de la bêtise et non pas de la volonté de Dieu. Cependant, mon propos ce matin n'est pas médical, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour essayer de faire un constat sur l'origine de telle ou telle maladie, mais nous sommes là pour examiner d'où la maladie est-elle venue, comment est-elle entrée dans le monde, et il nous faut comprendre cela pour également comprendre comment puis-je être guéri. Je vous propose pour cela de retourner dans le livre de la Genèse. Lorsque nous parlons de maladie, nous parlerons également de péché. Mais je veux être très clair ce matin. Tous ceux qui sont malades n'ont pas péché. Nous véhiculons souvent des pensées toutes faites. Celui qui est malade a obligatoirement péché. Non, loin de moi cette pensée. Cependant, à l'origine, les choses ne devaient pas être comme elles le sont devenues. Lorsque nous parlons de péché, nous devons penser à trois formes de péché différents. D'abord, le péché originel, celui duquel nous subissons tous les conséquences. Deuxièmement, le péché personnel. Troisièmement, le péché collectif. Et nous le verrons ensemble en lisant dans la Genèse chapitre 2, verset 17. Quel était le plan de Dieu ? Lorsqu'il s'adresse à Adam, il lui dit... Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu m'en mangeras, tu mourras. En d'autres mots, qu'est-ce que Dieu lui dit ? Si je change la phrase, ou si simplement je la redis autrement, Dieu est en train de lui dire, si tu n'en manges pas, tu ne mourras pas. Si tu en manges, tu mourras. Inversement, si tu n'en manges pas, tu ne mourras pas. Ça signifie, en d'autres termes, que Adam avait la vie éternelle. En d'autres termes, qu'il n'y avait aucune déficience physique. Il n'y avait pas de place pour la maladie dans l'œuvre que Dieu a faite. Le Créateur est parfait et ne pouvait que créer quelque chose de parfait. Voyez un peu plus loin, dans Genèse 3, au verset 16. Après, malheureusement, ce qui est arrivé, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Que vous le vouliez ou non, mes sœurs, à quelque part, même si vous êtes chrétienne, il ne me semble pas que vous accouchiez sans douleur, à moins que quelques-uns l'auraient expérimenté. Mais nous sommes toujours encore soumis à ce qui fait partie des conséquences de l'origine. Je continue. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Frères et sœurs, ça n'a pas changé. La terre produit beaucoup plus facilement des épines, des ronces et de la mauvaise herbe. Je le sais, mon père m'a assez amené dans le jardin pour désherber. Pour savoir que cette terre est toujours encore sous la malédiction qui avait frappé l'humanité au travers du péché. Et puis, il continue, c'est à la sueur de ton visage. Après avoir exécuté tes 35 heures et fait tes RTT, non, c'est pas ça. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et là, la mort est intervenue. Et là, la conséquence de la désobéissance et du péché est concrètement exprimée par Dieu lui-même. Tu retourneras à la poussière d'où tu viens, car tu es poussière et tu y retournes. Mon frère, ma sœur, ce matin, le péché conduit l'homme hors de la présence de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de péché. Souvenez-vous ce que dit 1 Jean 1,5. Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. La conséquence directe du péché dans le jardin fut qu'Adam perdit le bénéfice de ce que Dieu avait proposé et préparé pour lui. Dieu avait préparé pour lui la vie éternelle et la santé éternelle. Adam ne connaissait pas la maladie. Adam ne savait pas ce que c'est la grippe. Adam ne savait pas ce que c'est d'avoir des boutons partout. Adam ne savait pas ce que c'est d'avoir de l'asthme. Adam ne savait pas ce que c'est boiter. Papa Jean, Adam n'a jamais perdu ses dents. Il ne savait pas ce que c'était. Mais c'est à partir du moment où il fut coupé de Dieu qu'alors il perdit le bénéfice de la présence de Dieu avec toutes ses conséquences. Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Séparez-vous de la lumière et automatiquement vous êtes dans les ténèbres. Si nous coupions la lumière ici, le noir s'installerait de manière naturelle. Séparez-vous de la source, de la santé éternelle et automatiquement vous vous installez sous le joug de la maladie. Et ça, voyez-vous, le diable l'avait bien compris. Dieu n'a jamais créé la maladie. Je voudrais que nous soyons très clairs là-dessus. Mais c'est l'homme qui, en sortant de la présence de Dieu par le péché, s'exposera à la maladie, au vieillissement, puisque nous l'avons lu tout à l'heure, la conséquence directe, c'était la mort. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous échappons au vieillissement et à l'usure du corps. Si vous n'en êtes pas convaincu, regardez votre voisin. Non, regardez-le. Pourtant, nous sommes chrétiens. Est-ce que parce que nous sommes chrétiens, nous ne vieillissons plus? Si ça se savait, les églises seraient bourrées, pleines, que de femmes. Excusez-moi, chers téléspectateurs, c'est pas pour vous, c'est pour elles. Non, vous me connaissez, hein. Donc vous m'avez déjà pardonné. Non, si ça se savait, les églises seraient pleines. Si ça se savait que les croyants ne vieillissent pas, tout le monde serait chrétien en France. Tout le monde. Mais nous vieillissons. Nous vieillissons. Même moi, je dois le constater. Les plus âgés rient, mais je vous assure, l'autre jour, je suis allé faire un peu de football avec mes garçons. Mais au bout de 5 minutes, j'avais l'impression que je pouvais signer le bon pour entrer à la maison de retraite. J'étais là. Et j'étais avec un de mes collègues, Alain Kugler, qui est là ce matin. Son état n'était pas plus brillant que le mien. Non, le vieillissement nous atteint. Et dans le vieillissement, il y a également des maladies. Il y a également des souffrances. Il y a de l'usure, nous nous usons, vous vous usez, il s'use. Il y a de l'usure, parfois je me mets à genoux pour prier, mais je sens que dans mes... Vous allez me dire, il est comme une vieille carlingue celui-là, mais je sens dans mes genoux que tout n'est plus... L'autre jour j'avais un frère à côté de moi, il s'est baissé, il s'est redressé, ça fait crac crac, je dis donc chez toi, il est temps que tu boives de l'huile, hein. Ça, ce sont les conséquences. Et regardez, vous allez me dire, frère, t'es pas biblique. Mais oui, je suis biblique pleinement, biblique en plein centre de ce que dit la Bible. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4, que dit Paul ? Paul le dit de manière beaucoup plus poétique. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, c'est beau de comparer ça à une tente, hein ? Vous êtes tous des Canadiennes. Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes qui durera toujours. Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouverts de notre habitation céleste, c'est-à-dire de ce corps de gloire. En effet, nous serons vêtus et non pas nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Frères et sœurs, l'apôtre Paul traduit là concrètement ce que nous vivons, mais nous gémissons dans notre tente. Est-ce qu'il vous arrive jamais de gémir le matin en vous levant ? Je suis sûr, moi je voudrais bien être une mouche et être là tous les matins au lever du lit chez vous. Oh yeah, papy, oh yeah. Je suis convaincu. Et je vous en veux pas. Ça fait partie de notre chemin ici-bas. C'est une des conséquences de notre séparation d'avec celui qui est éternel. Cependant, et nous y reviendrons en Christ Jésus, nous allons retrouver la communion et au travers de son œuvre, il va rétablir les choses, non pas comme nous les voulons, non pas comme nous les pensons, car la finalité du plan de Dieu pour nous, ce n'est pas ici sur la terre, c'est chez lui dans le ciel. Trop souvent, il me semble que les chrétiens croient que la finalité que Dieu a pour eux, c'est pour cette terre. Plus vieillir, plus de souffrance, plus rien de tout ça, et vivre éternellement. Frères, sœurs, je ne souhaiterais à personne de devoir continuer à vivre éternellement ici, mais je souhaite à tout le monde d'être un jour avec lui dans le ciel. Son objectif, c'est le ciel. Et aux plus âgés, j'aimerais dire, mes frères, mes sœurs, le meilleur est devant vous. Et à tous qui sont ici, j'aimerais dire, le meilleur est devant nous. Nous sommes en route. Et en route, Dieu nous bénit. En route, Dieu a guéri cette grand-maman vendredi soir. Elle était heureuse, elle pétillait de vie. Vous savez, elle avait ce pétillement qu'ont les malades guéris instantanément. J'ai déjà vu beaucoup de malades guéris instantanément. Ils éprouvent une joie profonde, une reconnaissance. Il y a là quelque chose de vivant qu'ils vous communiquent parce qu'ils viennent de vivre la grâce de Dieu instantanément. Mais je sais que cette grand-maman, malgré sa guérison, mourra quand même un jour. À moins que Christ soit revenu avant et nous enlève tous à sa rencontre. Le péché originel. Deuxièmement, eh bien, nous ne pouvons pas éliminer la notion de péché personnel. Vous savez, le péché originel, et nous l'avons vu ensemble, il y a des conséquences dans nos vies. Ensuite, il y a le péché personnel, et nous en avons des exemples bibliques. Je ne m'étendrai pas trop longtemps là-dessus, mais par exemple, Géasi, le serviteur d'Élisée. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Rois 5, 24 à 27. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ses gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Bien-aimé, Géasi en l'occurrence sera malade, mais non plus à cause du péché originel, mais à cause de son péché personnel. Je le répète, les malades ne sont pas forcément malades parce qu'ils ont péché. Loin de moi cette pensée, je l'ai déjà dit. Cependant, dans certains cas, j'ai pu voir à quel point péché et maladie étaient intimement liés ensemble. J'ai pu voir à quel point l'excès pouvait entraîner la maladie. Voyez certaines personnes qui vivent dans le péché. Eh bien, une vie dans le péché. Je vais prendre par exemple un buveur. Combien d'alcooliques n'ai-je pas vu à la fin de leur vie ? Ils sont morts, c'est vrai, de maladies terribles, des fois énormes, dans des souffrances souvent profondes, mais c'était là que le résultat de ce qu'ils ont fait et de leur péché. Cependant, j'ai pris là un exemple assez flagrant. Dans la vie des croyants également, il peut y avoir des maladies qui sont liées à mon comportement, qui sont liées au péché. Vous allez me dire, frère, c'est pas possible. D'abord, Élisée en est un exemple, mais vous avez d'autres exemples dans la parole de Dieu. Prenez Myriam, la sœur de Moïse. Myriam va être médisante au sujet de son frère. Avec Aaron, tous les deux vont parler de Moïse. Et finalement, il n'y a-t-il que Moïse par qui l'Éternel parle ? L'Éternel ne parle-t-il pas non plus par nous, etc. La Bible dit que la colère de Dieu s'enflamme contre Myriam et elle fut atteinte de la lèpre. Bien-aimés, si nous prenons conscience de cela, nous allons dans l'avenir être beaucoup plus prudents quant à ce que nous disons. Quant au comportement que nous avons, il y a dans le monde spirituel des répercussions directes entre mon péché et l'action de l'ennemi dans ma vie. Souvenez-vous, la tentation de Satan va conduire Adam au péché. Conséquence de son péché, il est séparé de la grâce de Dieu. Conséquence de la séparation, la maladie et la mort vont venir. Maintenant, je reprends le chrétien. Le chrétien a fait une alliance avec Dieu. Il a fait une alliance dans laquelle il s'engage à marcher dans la droiture, dans le respect de la parole. Que se passe-t-il quand il pêche ? Il se passe exactement ce qui s'est passé dans le jardin. Il se coupe de la grâce de Dieu. Il se coupe de la bénédiction de Dieu. Il se coupe de la protection de Dieu. Dimanche dernier, nous avons dit que celui qui se garde du péché, eh bien, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Lorsque je pêche, j'ouvre une porte et je donne accès au malin pour qu'il puisse me toucher. La déduction très logique, c'est que le seul chemin qui peut vous ramener à la guérison lorsque vous êtes conscient de ce que vous avez fait et des conséquences, c'est votre repentance. Et un repentir sincère entraîne un pardon sincère de la part de entraîne un pardon de la part de Dieu. Je ne veux pas dire sincère, Dieu est toujours pleinement sincère. Et le pardon laisse place à la guérison. Mon frère, ma sœur, il nous faut être conscients que le péché personnel peut également avoir une influence. Le péché collectif. Nous avons des textes. Lorsque Dieu s'adresse à Israël, en règle générale, pas seulement à des individus. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, Deutéronome 28, 15, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Et un peu plus loin, au verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays où tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, etc. Il y a le péché collectif. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier que certaines maladies sont la conséquence directe du péché collectif de toute notre société. Notre société agit aujourd'hui sans plus rien respecter de ce que Dieu a mis en place. Le respect, par exemple, ne serait-ce que de l'environnement. Et je ne suis pas en train de vous faire là un discours d'écologiste, mais simplement le respect de l'environnement. Aujourd'hui, combien de cancers de la peau liés uniquement au fait que la couche d'ozone est complètement percée ? Combien aujourd'hui voyons-nous de dégâts suite à Tchernobyl ? Vous croyez que les enfants qui naissent à Tchernobyl aujourd'hui ont demandé quelque chose ? Si nous savions tous les tenants et les aboutissants, si nous savions pourquoi on choisit telle énergie plutôt que telle autre, si nous savions les vraies raisons qui parfois sont derrière le choix de différentes énergies, nous serions surpris et nous nous rendrions compte à quel point les choix ne sont pas faits forcément sur la base de ce qui est le plus rentable, mais parfois sur d'autres bases tout à fait différentes. Hiroshima, combien de milliers, de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui aujourd'hui encore ont les conséquences de cette bombe qui a été lâchée à Hiroshima. Des enfants naissent anormaux. On ne peut pas dire que c'est le péché originel. Mais il est évident que là, les conséquences sont les conséquences d'un péché collectif. Mon frère, ma sœur, ça c'est le bilan, ça c'est le constat. Moi, ce qui me réjouit, c'est que dans tout ce tableau qui est relativement sombre, il y a une espérance, il y a une issue, il y a un secours. Le diable a réussi à séparer l'homme d'avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que si dans le premier Adam il y eut la séparation, dans le nouvel Adam il y a la réunion avec Dieu. Et le nouvel Adam c'est Jésus. Maintenant nous allons venir aux objectifs de Dieu. Quel est l'objectif premier de Dieu, mon frère, ma sœur? C'est réconcilier l'homme avec lui-même. Par quel moyen? Par le moyen de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix. Et ce n'est que par ce moyen que nous sommes réconciliés avec lui. Jésus va venir et Jésus va manifester ce que Adam a perdu. Qu'est-ce que Adam a perdu? Adam a perdu la guérison, Adam a perdu la santé, Adam a perdu toutes ces choses-là. Jésus va venir et il va revenir avec tout ce qui compose le royaume de Dieu. La délivrance, la santé, la guérison. Jésus va venir et son ministère va être accompagné des signes qui se manifestent dans le royaume de Dieu. Dieu l'accompagne et le royaume de Dieu s'installait là où il était. Conséquence, les malades étaient guéris, les lépreux étaient purifiés, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Lorsque Jean le Baptiste, inquiet, envoie ses disciples pour demander « Est-il vraiment le Christ ? Que fait Jésus ?» Il dit « Allez dire à Jean, les aveugles voient. » Les boiteux marchent et la bonne nouvelle est annoncée. Mon frère, ma sœur, oui, nous subissons les conséquences du premier Adam. Mais j'aimerais te dire que dans le nouvel Adam, il y a une extraordinaire, une glorieuse espérance, non seulement pour le ciel, mais déjà pour la terre. Il est venu avec toutes les vertus du royaume et il est là ce matin au milieu de nous. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit avant de guérir un malade, tes péchés te sont pardonnés? Combien de fois? D'ailleurs, pour faire la démonstration aux pharisiens qu'il avait la puissance de pardonner les péchés, il guérira un paralytique. Il leur montrera que son œuvre n'est pas seulement extérieure, physique, mais qu'elle est d'abord intérieure. Jésus est là ce matin. Et Jésus te connaît et connaît ta situation. En le recevant, lui, tu reçois aussi celui qui apporte les vertus du royaume ici sur la terre. Le but de Dieu est de sauver tout homme. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan nous a privés de la présence de Dieu. Satan nous a plongés dans le chaos. Satan nous a plongés dans la maladie et nous conduit vers la mort. Ça, c'est le bilan. Et Satan est heureux de cela. Savez-vous que le diable se réjouit quand il arrive à faire ça? Satan est heureux. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 10:10. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Dieu veut pour toi une vie en abondance. Il veut pas pour toi une vie au rabais. Dis à ton voisin, serre-lui la main. Dieu te donne une vie en abondance. Abondance signifie qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Encourage-le, dis-lui, mon frère, ma sœur, même si c'est difficile, Dieu a pour toi en réserve une vie en abondance. Maintenant, regardez, et moi je trouve ça extraordinaire. Satan triomphe. L'homme est maintenant malade et il meurt. La conséquence de son péché se traduit également physiquement. Jésus arrive. Et vous savez, le diable se prend toujours à son propre jeu. Jésus arrive et va utiliser la conséquence de l'œuvre du diable qui est la maladie pour guérir les malades et manifester sa divinité. Ce que le diable avait employé comme outil pour détruire la création, Dieu va l'employer pour montrer à la création qu'il est vivant et qu'il est Dieu. Ce qui devait servir à nous anéantir, Jésus va l'utiliser pour nous reconstruire. Mon frère, ma sœur, Ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à réaliser cela. La maladie et la guérison ont leur place dans le plan de Dieu. La maladie, j'ose le dire, et la guérison ont leur place dans le plan de Dieu. Et Dieu va, dans sa souveraineté, utiliser l'un et utiliser l'autre pour nous emmener à cette stature qu'il veut parfaite en Christ. Non pas que ce soit la seule voie, mais c'est une voie. Alors, me donnez-vous encore 5 minutes. Est-ce que vous voulez d'abord être encouragé par une belle guérison ? Est-ce que ma sœur Erika est là avec son petit ? Erika, s'il te plaît, on va faire une petite pause et je terminerai. Je terminerai ce message chaque fois que je vois ce petit garçon. Je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Tu as laissé ton mari à la place ? Il a peur. Ça, c'est beau. Il a peur. Attendez, on retourne dans la Genèse pour voir ce qui est écrit. Allez, vas-y, ma petite sœur.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a voilà 7 ans, la dernière échographie du 8e mois, ils ont découvert chez David un kyste au niveau du cerveau. À ce moment, ils nous ont envoyés à Strasbourg pour faire des examens plus approfondis. Et là, ils nous ont appris qu'il souffrait d'une malformation très grave au niveau de la colonne vertébrale. Ça s'appelle un myéloméningocèle, c'est la forme la plus grave du spino bifida. En fait, ces 2 dernières vertèbres étaient ouvertes. Et tout ce qui est dans la colonne vertébrale, la moelle épinière, les nerfs, étaient en dehors du dos. Et ces nerfs étaient complètement abîmés parce qu'ils ont baigné pendant 9 mois dans un liquide. Le pronostic était il ne pourra jamais marcher. À la naissance, David est né avec cette malformation, mais Dieu avait commencé déjà à agir en lui enlevant déjà le kyste. À 4 jours, il a été opéré. Le médecin nous a dit qu'il pouvait juste remettre les nerfs et la moelle épinière à l'intérieur et recouvrir de peau, mais qu'on ne devait pas espérer à plus. Suite à cette opération, ça s'est rajouté une hydrocéphalie. Donc, sa tête a commencé à enfler, d'eau. Et donc, à 14 jours, ils lui ont posé une valve et un drainage, en fait, un petit tuyau qui descend jusqu'aux intestins afin que l'eau puisse s'évacuer. Et on a toujours prié, par imposition des mains aussi. Et sorti de l'hôpital, le tableau n'était pas très réjouissant. David commençait à avoir une anémie assez importante. Il nous avait dit que si ça n'allait pas mieux, il fallait le transfuser. Les doigts de pied commençaient à se recroqueviller, c'est-à-dire à se replier sur eux-mêmes, et ils nous ont dit que c'est un signe qu'il ne pourra jamais marcher. Nous avons prié et Dieu est intervenu. Petit à petit, il a commencé à se tenir assis. Il allait à 4 pattes, se tenir debout et à marcher. Un mois après ses premiers pas, on a fait un scanner de contrôle au niveau de son crâne pour voir si la valve fonctionnait bien. Et là, ils nous ont dit que la valve était déplacée de son ventricule. Cela, normalement, aurait dû donner une autre opération, mais il n'y avait plus aucun... plus d'eau dans la tête, il n'y avait plus aucun signe d'hydrocéphalie. Dieu était aussi intervenu à ce niveau-là. Aujourd'hui, David, il marche, il court, il fait du sport, il suit une scolarisation tout à fait normale, il fait plein de bêtises comme tous les enfants, et il est plein de vie, il est plein de vie, et... Et je voulais juste dire qu'au moment de notre détresse, quand moi j'ai accouché, que David a été transporté à Strasbourg, mon mari et moi, on était vraiment dans une détresse très profonde et le Seigneur nous a parlé à travers sa parole. Il a donné une pensée très profonde à mon mari pour qu'il ouvre sa Bible et il est tombé justement sur le passage d'Ézéchiel 37, versets 3 et 4, où il dit qu'il donnera des nerfs, qu'il donnera... de la chair, de la peau, qui recouvrira de peau et qui mettra un esprit de vie. C'était exactement la définition de la maladie, de la malformation de David. Et aujourd'hui, comme Jérémie, on peut dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Qu'à lui seul soit la gloire.
Merci infiniment. Tu me fais un bisou, David. Quel beau garçon maintenant. C'est extraordinaire. Que Dieu soit béni. Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais arrêter de prêcher.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.